Soif d'autre chose.
Soif d'autre chose.
Une émission présentée par les jeunes de la paroisse étudiante de Toulouse.
19h sur Radio Présence, et comme tous les lundis, c'est Soif d'autre chose, votre émission hebdomadaire jeune qui vous accompagne pour ce début de soirée, ce début de semaine. Et comme chaque lundi, je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de Louis-Marie. Bonsoir Louis-Marie.
Bonsoir Enzo, bonsoir tout le monde.
Alors qu'avons-nous au programme Louis-Marie ?
Alors ce soir on va rester dans la joie de Pâques en vous parlant aussi de la fin de cette octave de Pâques qui se conclut aujourd'hui et du temps qui nous sépare de la Pentecôte. Et aussi on est très heureux ce soir d'avoir un invité, on reçoit Philippe Orcel qui va nous parler du pèlerinage Notre-Dame de Chrétienté, le pèlerinage de Chartres, en nous parlant un peu de ses origines et puis surtout aussi de son accomplissement qui continue encore et qui prend de l'ampleur toujours chaque année. Et en fin d'émission je vous ferai une chronique aussi sur Saint-Benoît-Joseph Labre qu'on fêtera jeudi prochain.
Voilà, le programme est lancé, on peut y aller. Et on commence cette soirée en musique avec Jeannette, c'est Porqué Tevas. On se retrouve juste après avec Louis-Marie.
Desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación hoy lloraré.
De retour sur Radio Présence, on retrouve Louis-Marie pour sa première chronique de la soirée. Louis-Marie, on retourne dans la joie de l'octave pascale, mais on va parler de la période qu'il y a justement après cette octave pascale jusqu'à la Pentecôte.
Tout à fait, donc cette octave pascale qui se conclut aujourd'hui et qui nous ouvre aussi sur un temps très particulier entre Pâques et la Pentecôte où l'Église nous invite vraiment à prendre un chemin très intéressant et très riche. Et donc c'est une richesse exceptionnelle et c'est un temps qui nous prolonge qui nous permet de prolonger la joie de Pâques et qui nous conduit progressivement vers la Pentecôte. C'est un chemin, une respiration, une école de foi que l'Église nous propose et qui mérite que l'on s'y attarde. Tout commence avec ce que l'on appelle donc l'octave de Pâques, qui vient de se terminer, où pendant 8 jours, l'Église a célébré comme un seul et même jour la résurrection du Christ. Oui, nous avons bien entendu, pendant toute cette semaine, chaque jour a été liturgiquement un jour de Pâques. Les chants, les prières, les lectures, et tout a été marqué par cette lumière pascale qui ne faiblit pas. C'est une particularité très forte de notre tradition. On ne se contente pas de célébrer un événement, mais on y demeure. L'octave nous invite à habiter la résurrection, à en goûter toutes les nuances. Les récits évangéliques nous montrent que le Christ ressuscité, apparaissant à ses disciples, les rejoignant dans leurs peurs, leurs doutes et leurs incrédulités parfois. Et cela nous concerne directement, parce que la résurrection, ce n'est pas une idée abstraite, mais elle vient nous rencontrer dans notre vie concrète. Un autre aspect marquant de cette octave est sa tonalité profondément joyeuse et solennelle. Le Gloria est chanté chaque jour, l'Alléluia résonne avec insistance, comme si l'Église se refusait de laisser tomber l'élan de la nuit pascale. Et elle a raison, la résurrection est le cœur de notre foi et la source de notre espérance. Au terme de cette octave, nous célébrons le deuxième dimanche de Pâques, aussi appelé dimanche in albis, et aussi plus communément le dimanche de la Divine Miséricorde. Là encore, un accent particulier est mis, celui de la miséricorde qui jaillit du cœur du Christ ressuscité. Comme l'apôtre Thomas, Jésus nous invite à entrer dans une relation de confiance, à passer du doute à la foi. Puis après cette octave, on s'ouvre donc le temps pascal, qui dure lui 50 jours jusqu'à la Pentecôte. 50 jours, ce n'est pas un simple après Pâques, c'est un véritable temps liturgique à part entière, aussi important que le carême. Mais alors que le carême est marqué par la pénitence et la conversion, le temps pascal est celui de la joie, de la lumière et de la vie nouvelle. Durant ces semaines, la liturgie nous fait principalement lire les Actes des Apôtres. Ce choix est très significatif, il nous montre comment la résurrection se déploie dans la vie de l'Église naissante. Les apôtres ne sont plus enfermés dans la peur, ils deviennent des témoins audacieux. La résurrection n'est pas seulement un événement passé, elle devient une force agissante. Une autre particularité liturgique importante est la place donnée au cierge pascal. Allumé solennellement pendant la nuit de Pâques, il reste présent dans nos églises pendant tout le temps pascal. Il symbolise le Christ vivant, lumière du monde, sa flamme nous rappelle que le ressuscité est toujours au milieu de nous. Les dimanches de ce temps sont aussi marqués par les évangiles très riches. Le bon pasteur, la vigne et les sarments, le commandement de l'amour, autant d'images qui nous aident à comprendre ce que signifie vivre en ressuscité. Il ne s'agit pas simplement de croire que le Christ est vivant, mais de vivre nous-mêmes d'une vie nouvelle. Et puis, peu à peu, une attente se fait sentir, une attente discrète mais réelle, celle de l'Esprit-Saint, celle du Consolateur, du Paraclète, car entre Pâques et la Pentecôte, il y a un mouvement de tension. Jésus ressuscité prépare ses disciples à recevoir l'Esprit, il les enseigne, les rassure et les envoie, mais il leur demande aussi d'attendre. Cette attente culmine dans les jours qui suivent l'Ascension. Là, la liturgie nous fait entrer dans une sorte de retraite spirituelle avec les apôtres. Ils sont réunis en prière avec Marie au milieu d'eux. C'est un peu, on pourrait dire, la première neuvaine de l'histoire de l'Église. 9 jours d'attente, 9 jours de silence et de confiance. C'est une invitation pour nous aujourd'hui. Savons-nous attendre l'Esprit? Savons-nous faire silence pour accueillir ce que Dieu veut nous donner? Dans un monde où tout va vite, où tout doit être immédiat, ce temps liturgique nous apprend la patience spirituelle. Enfin, la Pentecôte vient comme l'accomplissement de tout ce chemin. L'Esprit Saint est donné, l'Église naît véritablement, et les disciples sont envoyés en mission. Ce que nous avons contemplé depuis Pâques devient alors une réalité vivante. La foi se partage, l'amour se communique, la vie nouvelle se répand. Alors en sautant entre Pâques et la Pentecôte, c'est donc bien plus qu'une simple période du calendrier, c'est un itinéraire intérieur. Il nous invite à passer de la joie reçue à la mission vécue, de la lumière contemplée à la lumière partagée. Alors ne nous laissons pas ces jours passer comme s'ils étaient ordinaires, entrons pleinement dans cette dynamique pascale et laissons la résurrection transformer notre regard et préparer nos cœurs à l'accueil de l'Esprit Saint. Et pour continuer dans cet élan qui nous amène vers la Pentecôte, on parlera juste après du pèlerinage qui a lieu chaque année en ce temps de la Pentecôte, qui est le pèlerinage de Chartres, qui relie donc ces deux villes de Paris et Chartres depuis beaucoup de temps, et on en parlera donc plus actuellement avec Philippe Porcel qui va nous en parler un peu plus en détail.
Merci beaucoup Louis-Marie.
Avec plaisir.
Alléluia, le Seigneur est venu. Alléluia, il est venu.
Plus de 20 000 fidèles sont attendus pour marcher entre Paris et Chartres du 23 au 25 mai 2026 pour le week-end de la Pentecôte.
Et oui, tout à fait. À l'occasion de ce week-end de la Pentecôte, a lieu chaque année le pèlerinage Notre-Dame de Chrétienté qui relie Paris à Chartres à pied. Et donc pour en parler avec nous ce soir, on reçoit Philippe Orcel. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Louis-Marie.
Alors on va parler de ce pèlerinage bien en détail. Et c'est un pèlerinage qu'on connaît assez bien aujourd'hui, mais pourtant ce trajet-là de relier Paris à Chartres à pied ne date pas d'hier. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les origines de ce pèlerinage ?
En effet, il remonte à loin puisque la dévotion débute en 876 quand Charles le Chauve, roi de France et empereur d'Occident, donne à Chartres une relique insigne qu'il tient de son grand-père Charlemagne, le voile de la Vierge Marie. Selon la tradition, ce voile porté par la Sainte Vierge lors de l'Annonciation et de la Nativité aurait été conservé à Constantinople avant d'être donné par l'impératrice d'Orient. Malheureusement, on en a perdu quelques bouts durant la Révolution, malgré le fait qu'il ait résisté aux incendies qui ravagèrent la cathédrale à plusieurs reprises. Il nous n'en reste plus que donc deux morceaux qui sont parvenus jusqu'à nous, visibles aujourd'hui dans le grand reliquaire, dans la chapelle absidiale de gauche, ou le petit reliquaire à la crypte. Derrière va donc se développer un grand pèlerinage vers Chartres, notamment au XIIe siècle, dans ce siècle si empreint de dévotion envers Notre-Dame, grâce à Saint Bernard ou à d'autres saints. On va avoir de nombreuses personnes humbles, anonymes, malades ou pécheurs, bourgeois et seigneurs, rois de France même, rois de France et d'Angleterre, dont Saint Louis, bien évidemment, Henri IV qui fut sacré. Princes et prélats, fidèles de toutes conditions, tous viennent se recueillir auprès de celle qui peut les guérir, mais surtout les aider à progresser dans le pèlerinage de leur vie terrestre jusqu'au ciel, vers lequel s'élancent les flèches audacieuses. Après un déclin, puis les heures sombres de la Révolution, ce sera un jour un poète, Charles Péguy, qui relancera l'élan marial. Sa marche vers Chartres pour confier à Notre-Dame son fils malade et son désespoir personnel sont un exemple de foi et de conversion qui touche et entraîne à sa suite des milliers de jeunes, notamment dans les pèlerinages des étudiants. En 1983 est fondé le pèlerinage de chrétienté, qui aura donc lieu cette année du 23 au 25 mai, sous l'égide du Centre Charlier, puis de Notre-Dame de Chrétienté, l'association qui s'occupe du pèlerinage actuel.
Tel qu'on le connaît aujourd'hui.
Exactement.
Donc on a vu que c'était un pèlerinage qui avait des origines historiques assez anciennes, mais comment est-ce qu'on connaît, du coup, comment est-ce qu'on en arrive à la forme du pèlerinage de Chartres tel qu'on le connaît aujourd'hui avec Notre-Dame de Chrétienté ?
Tout ça remonte à une dévotion qui a été lancée par le Père Emmanuel au Ménil-Saint-Loup, une dévotion à Notre-Dame de la Sainte-Espérance que l'on invoquait pour se convertir. Invocation qui d'ailleurs a été reconnue par le Saint-Père. Donc le Père Emmanuel préconisait donc d'invoquer Notre-Dame de la Sainte-Espérance en lançant ce cri « Notre-Dame de la Sainte-Espérance, convertissez-nous », suivi de la récitation d'un « Je vous salue Marie », puis de la répétition de l'invocation. Dans ce désir de se convertir, les membres du Centre Charlier et des membres fondateurs de la Fraternité Saint-Pierre se sont réunis au Ménil-Saint-Loup pour des retraites qu'ils y effectuaient de manière quasi annuelle et eurent l'idée, justement, durant une retraite de 83, de lancer le pèlerinage de Chartres pour redynamiser ce qui s'essoufflait en France, avec cette volonté émise par les responsables de faire de Chartres notre Częstochowa nationale.
Très bien. Et donc, parmi ces trois pays, il y a celui de la mission, qui est le thème principal de cette année. Qu'est-ce qu'on peut attendre, du coup, à quoi les participants peuvent s'attendre cette année avec ce thème de la mission ? Qu'est-ce qui va leur être inculqué pendant ces trois jours ?
Le pèlerinage de cette année a pour thème plus précisément « Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre ». Donc, c'est avec ces mots que commencent les Actes des apôtres au moment, du coup, de l'ascension de Jésus-Christ. Jésus-Christ repart, c'est à nous de reprendre le flambeau et donc d'évangéliser, d'être témoins de la résurrection du Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Mais une mission, tout comme le Christ, ça se prépare. Le Christ, avant d'évangéliser, a quand même passé 30 ans à se préparer. Et c'est seulement ensuite qu'il va partir en mission durant seulement 3 ans, un dixième de sa vie, en fin de compte. De la même manière, les apôtres, après cet ordre de notre Seigneur Jésus-Christ, se retrouvent au Cénacle pour prier. Et c'est seulement à la Pentecôte ensuite qu'ils vont partir. Donc, cet esprit missionnaire, ce que nous voulons faire à Chartres, c'est de le préparer. Aussi, on a séparé les trois jours en différentes parties qui vont permettre de bien construire le missionnaire catholique.
Alors donc on a vu que ce pèlerinage durait trois jours et qu'il était autour de la Pentecôte. Très concrètement, Philippe, comment est-ce que se déroule ce pèlerinage sur ces trois jours? Comment ça se passe? Comment est-ce qu'un pèlerin vit ce pèlerinage jour après jour?
Le but de ce pèlerinage est donc axé sur la fête de la Pentecôte, celle du dimanche. On va avoir la journée du samedi et du lundi pour encadrer un peu, pour préparer, mais le point culminant, c'est donc la messe du midi au Courlis, le dimanche, en plein cagnard le plus souvent. De nombreux pèlerins viennent de toute la France, des bus sont organisés pour un départ à Saint-Sulpice, auparavant à Notre-Dame de Paris, mais depuis les travaux, ce n'est plus possible. Et donc, pour une messe qui commence à 6h du matin, et ensuite nous partons sur les routes pour 100 km. Durant ces trois jours, bien évidemment, nous le vivons comme une petite retraite, avec de nombreuses méditations sur les thèmes de l'année, mais aussi sur des thèmes qui sont communs à toutes les années. Donc par exemple, le thème de cette année est sur la mission. Le samedi, nous étudierons sous le patronage de Saint François de Sales les fondements de la mission. Le dimanche, la mission à l'école du Saint-Esprit, et enfin le lundi, la prêche de l'évangile proprement dite avec le bienheureux Isidore Ngueï Colat. Nous partageons donc notre journée entre ces méditations, des chants de marche, des chants religieux et bien évidemment la récitation du rosaire. C'est un des accès principaux de Notre-Dame de Chrétienté. Le samedi soir est proposé l'adoration jusqu'au dimanche matin.
Donc le soir, ça donc les pèlerins s'arrêtent pour dormir. Donc si j'ai bien compris, les pèlerins partent le samedi soir de Paris après la messe d'envoi et marchent ensuite combien de temps à peu près le premier jour?
Premier jour, nous marchons 45 km durant toute la journée. Nous arrivons le samedi soir. Le samedi matin, nous repartons pour aller à la messe au Courlis à midi. Des Courlis, ensuite, nous marchons durant l'après-midi pour enfin, dans la nuit de dimanche à lundi, justement, pouvoir avoir un petit peu d'adoration.
Et donc, on a dit des temps de marche, hein, des temps de rosaire et aussi des méditations. Qu'est-ce que c'est que ces méditations? En quoi elles consistent et comment est-ce qu'elles sont réparties au fur et à mesure des trois jours?
Alors, chacun des jours a un saint patron, un thème, afin de bien construire le thème de l'année sur la mission. Le samedi, nous avons, avec saint François de Sales, les fondements de la mission. Le dimanche, la mission à l'école de l'Esprit-Saint. Et le lundi, aller prêcher l'évangile avec le bienheureux Isidore Ngueï Colat. De plus, nous avons plusieurs méditations communes à toutes les années sur le Saint-Esprit, sur la tradition, sur l'Église, sur la célébration de la messe et sur comment adorer l'Eucharistie, la consécration à Notre-Dame et bien évidemment le rosaire, point central du pèlerinage.
D'accord. Donc on voit que ce pèlerinage avance, fonctionne par chapitre. Est-ce qu'on peut avoir une brève définition de ce qu'est un chapitre et pourquoi c'est voulu par le pèlerinage?
Eh bien, il y a de très nombreux pèlerins à Chartres. Pour des soucis bien évidents d'organisation, on a divisé les pèlerins en plusieurs petits groupes de chapitres de pèlerins, justement, placés sous l'égide chacun d'un saint patron. Ainsi, à Toulouse, nous avons deux chapitres, celui de Saint-Jean-Baptiste, rattaché à la chapelle du même nom, et le chapitre Saint-Cernin.
Dont tu es le chef.
Dont je suis le chef de chapitre, tout à fait. Saint-Cernin, premier évêque de Toulouse, mort martyr, vous connaissez l'histoire, tiré par un taureau.
Exactement. Et donc ce chapitre, il est plutôt récent, il a été créé il y a combien de temps, et comment est-ce qu'il fonctionne, lui, étant donné qu'il n'est pas rattaché à une paroisse?
Ce chapitre a été créé en 2001. Il a eu quelques années où on l'a oublié et on l'a relancé il y a 2 ans, justement. Il permet justement d'accueillir toutes les personnes qui souhaiteraient découvrir la messe traditionnelle durant ces 3 jours. Mais si vous voulez vous inscrire, faites vite. Il ne reste plus que quelques places, 3 ou 4 à peine. Voilà.
D'accord. Donc le but, c'est d'ouvrir aussi ce chapitre-là à des gens qui ne viennent pas forcément de ce milieu-là, entre guillemets, et de faire vraiment aussi un pont avec d'autres qui seraient peut-être plus initiés. Et donc voilà, c'est ce qu'on peut aussi s'attendre avec ce chapitre. Et donc pour ça, on te souhaite, Philippe, bonne chance pour l'accomplissement de cette belle mission qui t'est donnée. Et on espère aussi avoir quelques retours après la Pentecôte, de savoir si tout s'est bien passé. Et d'ici là, on te porte bien dans nos prières et on espère que tout va bien se passer.
Merci beaucoup, Louis-Marie.
Et merci beaucoup à Philippe Orcel et Louis-Marie Gabriel pour cette interview. Juste avant de retrouver Louis-Marie pour sa deuxième chronique, c'est Joe Dassin avec Siffler sur la colline sur Radio Présence.
Je l'ai vue près d'un laurier, elle gardait ses blanches brebis. Quand j'ai demandé d'où venait sa peau fraîche, elle m'a dit: c'est une roulée dans la rosée qui rend les bergères jolies. Mais quand j'ai dit qu'avec elle je voudrais y rouler aussi, elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. À la foire du village, un jour je lui ai soupiré que je voudrais être une pomme suspendue à un pommier, et qu'à chaque fois qu'elle passe, elle vienne me mordre dedans. Mais elle est passée tout en me montrant ses jolies dents. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Wow. 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 Wow.
De retour sur Radio Présence, Louis-Marie, pour ta deuxième chronique, qui va nous faire découvrir à Saint-Benoît-Joseph Labre.
Et oui, tout à fait. Aujourd'hui, je vous propose de faire halte avec une figure étonnante et pas très connue, un peu déroutante même, et pourtant profondément lumineuse de la sainteté chrétienne. Saint-Benoît-Joseph Labre, un homme sans foyer, sans bien, sans sécurité humaine, et pourtant, il est habité d'une richesse spirituelle peu commune. À première vue, sa vie peut nous déconcerter. Il naît en 1748 dans le nord de la France. Benoît-Joseph Labre aurait pu suivre une voie plus classique, devenir prêtre, entrer dans un monastère, mener une vie religieuse structurée. Il en avait le désir ardent, mais toutes les portes lui sont fermées. Refusé par plusieurs communautés et fragile de santé, il semble peu à peu comprendre que Dieu l'appelle ailleurs, dans une voie radicalement différente. Et c'est là que commence son chemin singulier, celui du pèlerin pauvre, errant de sanctuaire en sanctuaire, vivant dans le dénuement le plus total. Rome, Assise, Lorette, Compostelle, il marche, il prie et il mendie. Il dort souvent dehors, son apparence dérange, sa pauvreté est extrême, et pourtant, au cœur de cette vie, que beaucoup jugeraient misérable, se déploie une intense vie intérieure. Car c'est bien là le cœur de sa spiritualité, une union profonde avec Dieu dans le dépouillement absolu. Benoît-Joseph Labre nous rappelle une vérité essentielle: Dieu ne se laisse pas enfermer dans nos cadres. Nous avons parfois tendance à penser que la sainteté doit suivre un certain ordre, une certaine stabilité, une certaine réussite visible. Or, sa vie nous dit tout le contraire. Il n'a rien réussi selon les critères humains, il n'a fondé aucune œuvre, écrit aucun livre, exercé aucun ministère reconnu, et pourtant il est devenu un témoin puissant de la présence de Dieu. Sa spiritualité repose sur trois piliers que nous pouvons méditer aujourd'hui. D'abord la pauvreté évangélique, mais attention, il ne s'agit pas simplement de manquer de biens matériels. Chez lui, la pauvreté est un choix intérieur, une disponibilité totale à Dieu. Il accepte de ne rien posséder pour que tout en lui soit tourné vers l'essentiel. Dans un monde où nous accumulons souvent plus que nécessaire, sa vie est une question posée à chacun de nous. De quoi avons-nous vraiment besoin pour vivre, et surtout, qu'est-ce qui occupe la première place dans nos cœurs? Ensuite, la prière constante. Benoît-Joseph Labre est un homme de prière silencieuse, de prière cachée. On le voit souvent à genoux dans les églises, immobile pendant de longues heures, absorbé dans la contemplation. Il n'a pas de méthode compliquée, pas de discours élaboré, sa prière est simple, directe et presque nue. Il se tient devant Dieu comme un pauvre devant son Seigneur. Et cela aussi nous interpelle, nous qui cherchons parfois des techniques, des méthodes, des recettes pour prier efficacement, lui nous rappelle que prier c'est d'abord être là, disponible et présent à la présence de Dieu. C'est consentir à cette relation, même dans le silence et même dans l'aridité. Enfin, troisième pilier, l'abandon à la providence. Sa vie entière est marquée par une confiance radicale. Il ne sait pas où il dormira le soir, ni ce qu'il mangera, et pourtant, il avance. Non par imprudence, mais par foi. Une foi qui croit que Dieu prend soin, même au cœur de l'incertitude. Notre société est marquée par le besoin de tout prévoir, de tout maîtriser. Cette attitude peut sembler folle, et pourtant, elle touche quelque chose de profondément chrétien. Croire que nous ne sommes pas seuls, que notre vie est entre les mains de Dieu. Mais attention, il ne s'agit pas d'imiter extérieurement sa vie. Nous ne sommes pas tous appelés à devenir des pèlerins errants. Ce serait une erreur de copier les formes sans en saisir le cœur. La véritable invitation de Saint Benoît-Joseph Labre est intérieure. Il nous invite à devenir chacun à notre manière des pèlerins de l'essentiel. Cela peut prendre des formes très concrètes, simplifier notre vie, faire de la place au silence, redonner à la prière une place centrale, apprendre à lâcher prise sur ce que nous ne contrôlons pas. Il s'agit de passer d'une vie encombrée à une vie habitée. Ce qui nous frappe chez lui, c'est son regard sur les autres, lui qui n'avait rien, donné pourtant beaucoup, un sourire, une présence, une paix. Il ne juge pas, ne revendique pas, ne se plaint pas. Il vit dans une humilité profonde, presque effacée, et c'est précisément cette direction qui devient un témoignage. À sa mort en 1783, à Rome, ce sont les pauvres qui reconnaissent en lui comme un saint. Ceux qui vivent en marge, ceux que l'on oublie, ont vu en lui un frère. Et cela aussi est une leçon pour nous. La sainteté ne s'impose pas, elle se reconnaît à la manière dont on touche les cœurs. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui? Peut-être ceci, que la sainteté n'est pas une question de performance, mais de relation. Elle ne dépend pas de ce que nous faisons, mais de la place que nous laissons à Dieu dans notre vie. Saint Benoît-Joseph Labre nous invite à un dépouillement intérieur, à une prière simple, à une confiance plus grande. Il nous rappelle que Dieu se laisse trouver dans le silence, dans la pauvreté du cœur, et dans l'abandon confiant. Et si aujourd'hui nous faisons un petit pas dans cette direction, peut-être en prenant quelques minutes de silence et en laissant de côté ce qui nous encombre, en confiant à Dieu ce qui nous inquiète.
Merci beaucoup Louis-Marie.
Avec plaisir.
Oh, J'aurais pu traîner le long de mes rêves. J'aurais pu l'air de rien. Attendre ici que la journée s'achève. Sortir le chien, si j'en avais un. J'aurais pu m'inventer des inventaires. Refaire et faire le point. Mais ce matin, j'ai bien plus cher à faire. Bam, da, ba, da, bam. Ce matin, j'irai dire aux gens que j'aime. Au juste merci d'être ce qu'ils sont. Qu'ils changent mes heures amères en poèmes. Et tous ces mots que nous taisons. Ce matin, j'irai dire aux gens que j'aime. Ou comme ils comptent pour moi chaque instant. De mots doux et attendre la prochaine, remettre au lendemain. C'est bien plus simple d'émettre des haines, bien anonyme, tapis dans son coin. Écoule nos vies et l'eau des fontaines, la vie de quotidien. Et passe les jours et puis les semaines, bam badabadam. Ce matin, j'irai dire aux gens que j'aime. Ou juste merci d'être ce qu'ils sont. Qu'ils changent mes heures amères en poèmes. Et tous les mots que nous cachons. Ce matin, j'irai dire aux gens que j'aime. Ou comme ils comptent pour moi chaque instant. De mots doux, c'est mieux qu'un grand chrysanthème. Et le dire, c'est le rappeler de temps en temps. J'aurais pu traîner le long de mes rêves. J'aurais pu l'air de rien. Attendre ici que la journée s'achève. Bam da ba da bam. On devrait dire aux gens quand on les aime. Nos heures amères en poème, on devrait tous se dire avant. Il faut le dire aux gens quand on les aime, comme ils comptent pour nous chaque instant. Les mots doux c'est mieux qu'un beau requiem. Et tant qu'on est là, bien vivant, tout se dire tant qu'il est temps.
C'est déjà la fin de Sauf d'autres choses. On se retrouve lundi prochain en direct, toujours sur les ondes de Radio Présence pour vous accompagner dans ce début de semaine ensemble. Très bonne fête de Pâques, hein, parce qu'on reste toujours quand même dans cette joie de cette fête, comme Louis-Marie nous l'a dit. À très très bientôt, très bonne soirée. Tout de suite, Nathalie Cardon avec Des clés pour vivre et les rues de Toulouse. Très bonne soirée sur les ondes de Présence.
C'était Soif d'autre chose, une émission présentée par les jeunes de la paroisse étudiante de Toulouse.